Chapitre 2. La pension Stephen. Il n'y avait pas à perdre une minute. Emballer, sortir de cette détestable maison des miroirs, chercher un refuge temporaire et une nouvelle situation, c'était le programme immédiat. Avec 500 francs et quelques petites ressources personnelles qui lui restaient, Thérèse Lemaire possédait de quoi ne pas trop s'inquiéter. Tout en vidant l'armoire et les tiroirs, tout en empilant sur les chaises son linge, ses vêtements, elle se félicitait de n'avoir pas complètement vidé la lourde caisse de livres, une caisse à ferrure et qui fermait comme une malle par une serrure et un cadenas. Trondish, accompagné du garçon des couteaux, qu'à Londres on appelle Bouton, à cause de son uniforme de cérémonie, corde du haut en bas une multitude de petits boutons, descendit des mansardes et les valises de Thérèse et offrit ses services de l'air d'une bonne fille qu'afflige la disgrâce de sa collègue. Pourquoi refuser ce concours? Il fallait gagner du temps. Trondish exprima des condoléances tout en pliant les robes plus adroitement que Thérèse ne l'eût fait elle-même. « Vous n'avez pas compris l'endroit, mademoiselle. Ce qu'il faut, c'est d'entrer dans leur idée. Moi, je le fais et je suis bien vue. » « C'est-à-dire, interrompit Thérèse brusquement, que vous dépravez Julia par des renseignements et des conseils abominables. « Oh là là, reste à savoir laquelle en apprend le plus à l'autre. Vous savez, mademoiselle, je vous estime bien, vous êtes honnête avec le personnel, mais pour verte, vous êtes verte. »« Comment verte ?» demanda Thérèse. « Oui, green, on dit comme ça. Vous êtes jeune, paroublarde, vous ne savez rien. » « Je m'en doute un peu, » dit Thérèse avec un soupir. « Enfin, j'ai toujours appris quelque chose dans cette maison. »« Et qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Trondish avec une apparence de sollicitude. « En tout premier lieu, avant midi, je prendrai une voiture et j'irai voir s'il y aurait une chambre vacante dans la pension où j'étais avant de venir ici. Si oui, je reviens et j'emmène armes et bagages le plus tôt possible. »« Madame a réglé ?»« Oui. » Et même généreusement. Ça ne m'étonne pas. Elle vous gobait, allez, ces demoiselles aussi, au début, mais surtout madame. Vous auriez mené toute la maison si vous aviez su jouer vos cartes. C'est ce que Meugrange disait à l'office. Horreur! Elle avait été discutée à l'office par ces gens, par ce butler à l'obséquieux sourire. On avait épilogué sur la parente intimité de la maîtresse de maison avec une petite institutrice. On savait sans doute, tout se sait quand une Trondige espionne au second et Meugrange au rez-de-chaussée et partout, que Thérèse avait dû mettre le verrou à sa porte. Ah, rester là encore une demi-journée, c'était trop. Elle aurait voulu fuir à l'instant même cet air empesté. Mais il fallait activer les menus détails du départ. Quand la malle fut fermée et que Thérèse eut mis son chapeau, elle tira de son porte-monnaie 5 shillings et les tendit à Trondish avec un merci. « Vous m'avez rendu service, sans vous je ne serais pas prête. »« Non, non, » fit la femme de chambre avec un geste de refus. « Vous n'êtes pas plus riche que moi, probable. »« Alors, je vous enverrai un petit col, » dit Thérèse. « C'est ça, j'aime mieux, ce sera plus souvenir. » Thérèse ne put s'empêcher de sourire en dedans de ce mot sentimental qui lui parut incongru. « Mais quel être est fait tout d'une pièce ?» Trondish, vulgaire et probablement vicieuse, pouvait bien avoir aussi des aspirations à l'honnête amitié. Bouton fut envoyé quérir une voiture qui emmena Thérèse. Elle en descendit, au bout d'une demi-heure, dans une de ces rues modestes et convenables dont le damier s'étend entre les grandes artères commerçantes d'Oxford Street, Edgeware et Marybone, quartier commode, sans élégance, pas cher et à portée de tout. « Je vous garde, » dit Thérèse à son cocher, et elle sonna à la porte d'une étroite maison, noire comme sont toutes les maisons à Londres, mais dont les trois fenêtres de façade sur 3 étages étaient propres, et les rideaux de cette teinte grisâtre qui approche le plus possible de la blancheur. Les marches du perron avaient été lavées du matin et passées à la craie, suivant le rite futile qui les garde immaculées pendant 10 minutes. Une fille en long fourreau bleu ouvrit la porte. « Lord, si c'est pas Madame Mlle Lemaire, » s'écria-t-elle. « Mais oui, c'est moi. Puis-je voir Mistress Stephen ?»« Elle est à la cuisine, je vais l'appeler. Entrez au salon, vous connaissez. » Thérèse pénétra dans le couloir, dont elle connaissait en effet l'aspect et l'odeur. Le tapis fort râpé n'avait pas de trous, les chapeaux accrochés au parterre n'étaient pas crasseux, le salon, son vieux piano, ses meubles recouverts d'une indestructible étoffe de crin, ses tableaux de l'époque représentant la reine Victoria à son couronnement, et dans un autre cadre pareil, la même Victoria, distribuant des bibles à une tribu sauvage, formaient un ensemble parfaitement morne, respectable et dépourvu de couleurs. Le gommier qui, dans sa potiche brune, décorait la fenêtre, avait poussé une feuille depuis le départ de Thérèse. Madame Stevens se fit attendre. Le cocher, au bord du trottoir, s'impatientait. « Avez-vous une chambre libre, aux mêmes conditions ?» demanda précipitamment Thérèse quand la landlady parut enfin. « Oui, parfait, je reviens dans une heure. » Madame Seven était veuve. Elle avait connu des jours meilleurs et ne le laissait point ignorer. Elle gagnait sa vie avec la pension de famille qu'un petit capital lui avait permis de meubler convenablement. Louant 6 chambres à 5 ou 6 personnes tranquilles de l'un et de l'autre sexe, elle offrait à ses pensionnaires des repas cuisinés selon la plus stricte tradition anglaise de petite bourgeoisie. Du thé très faible, un atome de lard grillé et d'épaisses tartines pour le petit déjeuner, à 1 heure, le dîner, l'éternel rosbif ou le mouton bouilli au rave, les légumes insipides. Un pudding à la graisse de rognon le dimanche. Jamais une entrée, une friture ni une sauce, sinon les effroyables mixtures d'anchois, de poivrons et d'épices qui vous pèlent la langue, figurant dans des flacons sur toute table anglaise et dont les convives arrosent indistinctement tous les mets sauf le dessert. À 6h30, un souper était servi, thé, viande froide, parfois des œufs au jambon, parfois une tarte. La viande était toujours de bonne qualité et les pommes de terre excellentes et monotones. On recevait tous ses biens, y compris une petite chambre au 3e étage, pour 25 francs par semaine. La vie n'était pas chère dans cet heureux temps. Madame Stephen, même émergeant de sa cuisine, semblait sortir d'une boîte, sa robe d'alpaga gris foncé, son petit tablier de soie noire ruché et à poche, sa broche en mosaïque, ses bandeaux plats ne variaient ni d'une ligne ni d'un pli, du lundi matin au samedi soir. Brave femme, ordonnée et consciencieuse, sa religion lui ordonnait de se préparer à tous les ennuis, à y compter pour elle et pour les autres. « Les illusions sont une mauvaise marchandise », avait-elle coutume de dire. « Je n'en achète pas pour moi, je n'en vends à personne. » Assise en face de Thérèse, sur le sofa de crin glissant, elle la questionnait avec une certaine commisération. « Alors, ça n'a pas marché ? Je n'en suis pas surprise, c'était trop beau pour durer. 8 livres par mois comme salaire, on paissa à l'institutrice qui finit les éducations, mais à une jeune chose comme vous, non. » La preuve est faite, c'était une illusion des deux côtés. Maintenant, Miss le maire, n'allez pas vous imaginer que le moment soit bon pour se replacer. Après Pâques, chacun est pourvu jusqu'en automne. Avez-vous de quoi attendre ? 3 mois au plus. Ça vous porte en pleine vacances, saison morte tout à fait. À votre place, je ne me ferai pas d'illusions. Qui avez-vous comme pensionnaire ? Demanda Thérèse pour changer de sujet. Les mêmes personnes que j'ai connues en mars ? À peu près. Le couple suédois est parti. La chambre du premier sur le devant est louée à un jeune homme qui est commis dans la cité. Il ne dîne pas, naturellement, il prend son lunch près des bureaux. Le soir, il est là pour le souper en général. Les sœurs Kesselman, les modistes, ont les 2 chambres du second. Au 3e, ma nièce Sophie, qui se fait aussi des illusions. Elle imagine qu'elle se débrouillera en traduisant des articles allemands ou français pour les journaux. Je vous demande un peu si nous en avons besoin. Votre ancienne chambre est vacante depuis hier. Ça se trouve à merveille, dit Thérèse. Oh, à merveille, oui, par hasard. Si vous n'étiez pas arrivée, j'avais cette chambre vide pour combien de temps? Avez-vous dîné, Miss le maire? Non, tout le monde était sorti. La femme de chambre m'a bien offert de me monter un petit linge, mais ce n'était pas la peine. Vous avez eu tort. Ne vous faites pas d'illusions. Nous avons fini et il n'y a rien à réchauffer. Cela m'est parfaitement égal. Je grignoterai un morceau de chocolat et j'attendrai de souper. Je peux monter, n'est-ce pas ? Ça m'amusera de m'installer de nouveau, un peu comme à la maison, puisque j'y reviens. » Ce mot attendrit-il le cœur, pas très dur, de Mme Stephen ? 10 minutes plus tard, Thérèse étonnée voyait paraître sur le seuil un grand plateau porté sur les maigres bras de Lizzie, la longue fille au dos déjà rond, tant elle avait dès son âge tendre, monté de plateaux, de seaux de charbon et de brodeau chaude. « Madame vous envoie du thé, et puis un brin de gigot, et puis une pomme de terre froide, et puis du sel et de la moutarde » prononça-t-elle en lâchant d'un coup sur la table le lourd plateau où la vaisselle tressauta. « Ma pauvre Lizzie, vous avez monté tout ça depuis le sous-sol, 4 étages. Attendez que je vous donne une tablette de bon chocolat suisse et reprenez votre souffle, asseyez-vous. » Lizzie n'osa pas. Son protocole de petite esclavette, de torchonnette, ne lui permettait de s'asseoir que pour les repas au coin de la table de la cuisine. Mais elle accepta le chocolat avec un magnifique sourire. Thérèse se sentait presque trop gaie pour une institutrice qu'on avait... Pouvait-elle dire congédiée ? Non, chassée le matin même. Comme c'était bon de boire du thé, de saler une pomme de terre froide dans sa petite chambrette bien à elle, où personne n'avait le droit d'entrer sans sa permission. Il lui semblait tirer un épais rideau entre elle et la maison des miroirs, et sa malignité, son ricanement et son luxe doré, son espionnage, ses suggestions. Elle se dit « C'est fini, j'efface, je recommence ».